Radio Kapi.
Rencontre à Ituri du chef de la MONUSCO et les leaders féminins et de la jeunesse. Ces leaders des organisations féminines et de la jeunesse appellent la MONUSCO à soutenir davantage les initiatives locales de paix en appui aux efforts du gouvernement. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, dit vouloir rouvrir les sites pétroliers de Businga et améliorer la capacité de stockage de produits pétroliers dans le Grand Équateur. C'était lors de sa rencontre avec des responsables des sociétés pétrolières, des logistiques et commerciales mardi dernier à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, est visé depuis lundi 13 avril par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. À travers cette démarche, l'initiateur de la motion dit dénoncer notamment une gestion inefficace de la situation sécuritaire dans le pays. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont débattu de cette motion. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Journal du Matin. En Ituri, des leaders des organisations féminines et de la jeunesse appellent la MONUSCO à soutenir davantage les initiatives locales de paix en appui aux efforts du gouvernement. Il s'agit notamment des dialogues intercommunautaires et d'activités de sensibilisation qui ont contribué à renforcer la cohésion sociale et à encourager les désengagements de certains jeunes de groupes armés. Ils se sont exprimés mercredi à l'occasion d'un échange avec le chef de la MONUSCO, James Swan, en mission dans la province. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Réunis au sein du collectif des femmes de l'Ituri, ces femmes leaders affirment que ces dialogues communautaires ont permis de briser les barrières entre certaines communautés locales qui ne se fréquentaient plus depuis plus de 5 ans, notamment à Bidwe Zekere et à Manro. Elles soulignent également une baisse des tensions sociales dans ces zones. Pour consolider ces acquis, elles sollicitent un appui accru de la MONUSCO afin de pérenniser ses actions en faveur d'une paix durable. Elisabeth Bouvet, présidente de cette structure.
Renforcer l'appui au dialogue de proximité en Djougou et de soutenir aussi les organisations féminines dans la cohésion sociale et l'autonomisation.
Du côté des jeunes, une prise de conscience est également observée. Nombre d'entre eux refusent désormais d'intégrer les groupes armés, tandis que d'autres se sont retirés pour adhérer au PDDRCS. Ces avancées sont attribuées aux campagnes de sensibilisation menées par les organisations de jeunesse, qui appellent elles aussi à un accompagnement de la MONUSCO. Deogracias Bungamuzi.
Le plan d'action provincial de la résolution 2050. La MONUSCO qui a appuyé la phase de rédaction de ce plan d'action puisse nous appuyer dans sa mise en œuvre.
De son côté, le Parlement d'enfants plaide pour l'éradication des groupes armés avec l'appui de la MONUSCO afin de promouvoir les droits des enfants. Réagissant à ces préoccupations, le chef de la MONUSCO a indiqué que ces échanges permettront de mieux adapter l'appui de la mission aux réalités vécues par les populations locales.
Sécurité encore, les tensions liées à la présence de Mbororo et attentes de populations au nord Ubangi, ce sont les principaux sujets au cœur des échanges ces mardis à Kinshasa entre les vice-premiers ministres. Ministre de l'Intérieur et Sécurité et le caucus des députés nationaux de cette province. À quelques jours de son itinérance à Guadolité, le ministre Jacquemain Chabani a voulu associer les élus afin d'aligner les priorités et préparer cette mission annoncée comme proche des réalités du terrain. On écoute le député Dengolé Momobutu, président du caucus des députés nationaux du Nord Ubangi, dans ses propos recueillis par Grace Amzati Masanzi.
Il nous a conviés pour nous annoncer que dans ses prérogatives en tant que ministre, il avait prévu dans son cahier de charge une itinérance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, c'est le tour de la province du Nord Ubangi. Raison pour laquelle il a voulu, dans sa démarche, associer les élus que nous sommes afin que nous puissions être avec lui et travailler ensemble pour le bien de nos populations. Éventuellement, cette itinérance aura plusieurs volets. Il y aura une formation des acteurs de la territoriale. Il y aura aussi aussi des consultations populaires. Et avant que nous puissions faire une descente, nous allons constituer un petit cahier des charges qui sera aussi à côté des activités qu'il pourra mener sur terrain. C'est une marque de considération. On le sait bien que le fonctionnement de l'État est un engrenage, c'est-à-dire l'exécutif a besoin du législatif pour bien faire fonctionner les choses. Et nous, en tant qu'élus, nous sommes en contact permanent et direct avec nos populations. Donc ça va aussi en opposition avec le rapport que lui, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut recevoir au niveau de ses services.
Restons dans la capitale. Les directeurs provinciaux de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT se trouvent depuis ce mercredi à Kinshasa, à l'école de la bonne gouvernance. Ils participent jusqu'à vendredi à l'atelier d'harmonisation des pratiques administratives et opérationnelles de leurs entités respectives. Ce forum se propose de renforcer l'organisation et la gouvernance administrative de ces services à travers le pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce forum de 3 jours vise à renforcer l'efficacité organisationnelle et la gouvernance administrative de l'Agence congolaise des grands travaux. Le directeur général de cet établissement a exprimé sa volonté de renforcer l'efficacité des représentations provinciales. Niko Nzaou Nzaou a encouragé les participants à débattre ouvertement et de manière constructive. Cette rencontre se propose également de recueillir les préoccupations organisationnelles des directeurs provinciaux, améliorer l'organisation des missions officielles et proposer des mesures correctives, comme indique le directeur des cabinets au ministère des Infrastructures, Firmin Kiala.
Il devient impérieux d'instaurer un cadre harmonisé, fondé sur des normes claires, des outils partagés et des procédures maîtrisées. Et cette rencontre n'est pas un exercice de contrôle, mais un cadre de co-construction. La qualité des résultats dépendra directement de votre niveau d'implication.
Cet atelier va en outre s'épancher sur les règles régissant l'organisation et le fonctionnement des directions provinciales en vue notamment de renforcer la maîtrise des règles et des correspondances administratives. Ces travaux visent par ailleurs à assurer une meilleure compréhension et une application uniforme des règles administratives et identifier les principaux risques organisationnels.
La réouverture des sites pétroliers de Businga et Akula ainsi que l'amélioration des capacités de stockage de produits pétroliers dans le Grand Équateur, le sujet au centre de la rencontre entre la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola Mbongo et les responsables des sociétés pétrolières des logistiques et commerciales ce mardi 21 avril à Kinshasa. C'est depuis plus de 20 ans que le Grand Équateur a perdu sa capacité de stockage de produits pétroliers à Businga, situé dans l'actuelle province du Nord-Ubangi, et au site d'Akula, basé dans le Sud-Ubangi. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
Selon le compte X du ministère des Hydrocarbures, Malik Ndiaye, directeur général de CEP Congo, dit apprécier l'engagement très fort de la part du gouvernement de rendre disponible les capacités de stockage des sites de Businga et Akula. Du côté du directeur général adjoint de Kobil, Olivier Okunda, plusieurs coins du pays ne sont pas bien desservis en produits pétroliers. Il dit être satisfait de l'initiative qui va permettre non seulement à Kobil, mais également les autres sociétés pétrolières à remonter les produits à l'intérieur du pays. Au cours de cet échange, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, a exprimé la volonté du gouvernement de la République et sa détermination à développer le secteur des hydrocarbures. Et cela commence par la modernisation des infrastructures pétrolières. Il faut noter que selon plusieurs témoignages des opérateurs économiques du Nord-Ubangi, par exemple, l'annonce faite par la CEP Congo en 2019 de réhabiliter les sites pétroliers de Businga n'a jamais abouti faute de difficultés routières. D'après ces commerçants, les sites pétroliers de Businga et reste en ce jour une friche industrielle victime de l'enclavement chronique du Nord-Ubangi.
D'un ministère à un autre, le ministre national des Mines séjourne depuis l'après-midi de ce mercredi 22 avril à Kindu. Louis Wantoum Kabamba fait savoir que sa mission au Maniema s'inscrit dans le cadre notamment du renforcement de la gouvernance minière, la transparence et la traçabilité. On écoute le ministre des Mines, Louis Wantoum, au sortir de son audience avec le gouverneur du Maniema, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
L'objectif de ma visite ici, de ma mission, d'action cadre avec les priorités de notre ministère des Mines. Comme vous le savez, dans la vision du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans le plan d'action gouvernemental de notre gouvernement dirigé par la première ministre, Madame Judith Suminwa, nous avons tous des objectifs clairs, sectoriels, notamment en ce qui concerne le secteur des mines. Il faut renforcer la gouvernance minière, la transparence, la traçabilité. Il faut lutter contre la fraude minière. Il faut faire un encadrement effectif de l'artisanat minier. Il faut permettre que les vraies richesses minières profitent aux fils et filles de ce pays et non pas aux étrangers. Il faut également que la géologie puisse suivre, que l'exploration géologique se fasse. C'est autour de tous ces points que ma visite s'explique en ce jour. J'aurai le temps de voir toute l'administration minière pour qu'on puisse se parler. J'aurai le temps de voir la société civile, les exploitants miniers, pour écouter leurs préoccupations et voir comment nous pouvons mieux les accompagner pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, qu'ils puissent créer de la richesse et que la vision du chef de l'État soit effectuée. Il y a le code minier, nous avons nos lois, nous avons nos règlements. Chacune de ces sociétés a signé un document avec des engagements contractuels. Nous allons aller dans ces engagements et voir qui a respecté ses droits, qui ne les a pas respectés. Et justice sera faite. Ceux qui n'ont pas respecté leurs droits, eh bien, tout permis leur sera retiré. Et nous allons chercher des gens qui sont plus méritants, qui sont plus capables pour faire avancer ces projets.
Revenons dans la capitale. Une grève sèche et sans limite a été décrétée ce mercredi 22 avril par l'intersyndicale de l'administration publique urbaine de Kinshasa. Toutes les portes des bureaux de l'administration provinciale sont restées fermées, les agents exprimant leur colère. Les revendications portent sur des arriérés de rémunérations importantes. 8 mois pour le personnel administratif en 2025, 10 mois pour le personnel politique, ainsi que des retards de paiement pour les mois de janvier, février et mars 2026. L'intersyndicale dénonce la mauvaise foi des autorités provinciales de Kinshasa face à ces revendications. David Nguengite, président de l'intersyndicale, s'est exprimé au micro de John Chibouaboua à ce sujet.
Nous sommes ici en pleine grève parce que les agents, le personnel, tant politique administratif, acquise des arriérés de rémunération. Pour le personnel administratif de toutes les divisions et les régies, c'est déjà dans le 10 mois d'un paiement. Si nous ajoutons le mois de janvier, février, mars de 2026, ça fait au moins 13 mois. Pour les personnels politiques, ils sont même dans les délais des 15 mois d'arriérés. C'est-à-dire, voilà pourquoi on a eu à écrire des correspondances aux autorités. Les autorités nous ont reçus et ils nous avaient rassurés qu'il n'y aurait pas cette année des retards de paiement. Mais nous avions constaté, même malgré la date du 15 avril où on a tenu la réunion ensemble, aujourd'hui on trouve que l'exécutif n'arrive pas à honorer ses engagements. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde s'est décidé de fermer les bureaux à tous les niveaux pour qu'il n'y ait pas service. On paralyse la ville pour trouver des solutions aux problèmes du personnel. La grève est illimitée, donc on ne sait pas quand est-ce que la grève va se terminer.
Retour à Bounia, où plusieurs quartiers sont privés d'eau potable de la régie des eaux depuis près d'une semaine à la suite d'une panne sur les réseaux de distribution. Conséquence, des milliers d'abonnés se tournent vers l'eau des forages ou des rivières. Une situation qui vient aggraver les difficultés d'accès à l'eau potable dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants. David Mugiza, reportage.
Parmi les quartiers touchés par cette pénurie d'eau figurent Nyakasanza, Limbabu, Sayo et Sikine, partie du quartier Lumumba à plein centre-ville. Les habitants, habitués à un approvisionnement par délestage 3 fois par semaine, ont été surpris de constater que l'eau ne coule plus au robinet. Face à cette situation, ils se rabattent sur des forages et des rivières où des longues files d'attente se forment pour s'approvisionner en eau. Ces abonnés dénoncent une coupure brutale aux conséquences importantes sur leur quotidien et expriment leur ras-le-bol.
Au lieu de puiser de l'eau près de la mairie, l'eau est séchée. C'est à cela qu'on est allé chercher là. C'est forage, 3 bidons, 5 safras. Il faut nous aider seulement. L'eau n'arrive pas, on souffre sérieusement.
De son côté, la régie des eaux appelle la population à la patience. Son directeur provincial assure que des équipes techniques sont à pied d'œuvre pour réparer la panne.
Chaque fois, on est obligé d'arranger notre bassin pour qu'on accumule beaucoup d'eau afin de renvoyer à l'usine. Ça devrait nous prendre 2 jours, mais à cause du débordement de l'eau, c'est ce qui nous a un peu retardé.
Il convient de rappeler que la régie des eaux ne dessert qu'environ 100 000 abonnés pour une population estimée à plus de 2 millions d'habitants à Bounia. Par ailleurs, les réseaux Ngongo alimentent également certains quartiers, mais l'accès à l'eau potable reste globalement limité dans la ville.
En Okivu, une nouvelle maladie inconnue attaque les bananeraies dans la chefferie de Baoundé en territoire de Masisi, notamment dans les zones de Bweremana et Chacha. Selon la coopérative agricole de Masisi, cette maladie serait causée par un virus ou une bactérie encore non identifiée, différent du wilt bactérien bien connu des cultivateurs locaux. Les symptômes varient selon les variétés, mais les dégâts sont déjà importants. Plusieurs hectares sont touchés, entraînant une baisse de la production et une hausse sensible du prix de la banane plantain sur les marchés locaux et jusqu'à Goma, principal centre de consommation. Le président de la coopérative agricole de Masisi, Wetemwami Kanyanya, décrit ici la situation. Il a été joint par Bernadette Nyangi.
C'est pour dire que la production est actuellement très faible. Il s'est déjà créé une nouvelle maladie dont on ne connaît pas encore le virus en cause, encore moins comment la combattre. Cette maladie apparaît plus virulente que le wilt bactérien. Elle ravage plusieurs bananiers, ce qui provoque une rareté sur le marché. Avant, un régime de bananes s'est négocié entre 5 000 et 10 000 francs congolais. Aujourd'hui, un bon régime ne coûte pas moins de 20 000 francs congolais ici. Les signes apparaissent sur la hampe florale et sur les jeunes feuilles qui sèchent. La plante s'affaiblit, maigrit et ne produit plus. Et lorsque la plante est contaminée après la floraison, elle donne un régime de bananes très maigre, difficile à éplucher. Plus de 60% des bananeraies de Kitouva sont déjà touchées et la maladie continue de se propager vers Bweremana. Et contrairement au wilt bactérien, une fois le champ touché, il faut raser tous les bananiers, ce qui se complique.
Des sources locales à Bouzi et Minova, en territoire de Kalehe, au sud Kivu, signalent également la présence de cette maladie. Une situation qui explique la hausse progressive du prix de la banane plantain observée ces dernières semaines sur les marchés de Goma.
Actualité internationale.
L'ancien président sénégalais Macky Sall a clôturé ce mercredi 22 avril les oraux organisés par l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre de la course à la succession d'Antonio Guterres comme secrétaire général de l'organisation. Seul candidat africain en lice, il est aussi le seul des quatre prétendants à n'avoir jamais exercé de fonction au sein de l'organisation et le seul dont la candidature n'a pas été portée par son propre pays. C'est le Burundi qui l'a présenté.
L'invité.
Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani-Louco, est visé depuis lundi 13 avril par une motion de défiance à l'Assemblée nationale. À travers cette démarche, l'initiateur de la motion dit dénoncer notamment une gestion inefficace de la situation sécuritaire dans le pays. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi ont débattu de cette motion. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Docteur Ladi Yangotikala Senga, vous êtes député national élu de Kisangani dans la province de la Tshopo. Vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation et initiateur de la motion contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur?
Monsieur Guy Maté, aujourd'hui, vous êtes avec moi ici à Kinshasa. Vous remarquez le nombre de braquages. Vous remarquez le nombre de vols à main armée dans la cité. Je commence par la colline inspirée. On est allé braquer une banque à l'université de Kinshasa. Ce n'était même pas la nuit, c'était à midi. Deux, un professeur s'est vu être abattu chez lui à la maison par des voleurs à main armée. Je quitte le campus, je descends toujours dans la commune de Lemba, je suis à Super Lemba. Une maison de change s'est vu être braquée en pleine journée entre 12h et 14h. Je suis toujours à Lemba, au niveau de l'échangeur délimité. L'entreprise qu'il y a là-bas, les Chinois avaient été braqués et leur chauffeur tué, l'argent emporté par des voleurs à main armée en pleine journée. Je descends dans la commune de Lingwala et Kinshasa, sur Willery. La maison de Martin Bakole avait été visitée par des hommes armés qui n'étaient même pas cagoulés. Et comme si ça ne suffisait pas, je monte vers Ngaliema, Delvaux. Du coup, tous ces événements se sont de plus en plus amplifiés. Ça, ce ne sont que de braquages. Et regardez maintenant le banditisme urbain. Aujourd'hui, tel que toi et moi sommes en train de parler ici, au niveau de la commune de Makala, vous avez peut-être des bonnes informations, puisque moi, les gens, ils m'envoient des informations un peu de manière éparpillée, puis je prends le temps pour le vérifier. Au niveau de la Tchangu, dans la commune de Lancélé, les sinistrés de Fakadjouma qui ont été relogés vers Kinkole, vous aviez appris qu'il y a eu des bagarres et des morts d'hommes.
Merci, Paul Chilumbu. Vous êtes professeur et député national élu de la Tchangu dans la ville de Kinshasa. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous réagissez au grief formulé contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à travers cette motion de défiance?
Je crois que nos collègues ont péché dans le fond. Lorsque j'ai lu leur motion de défiance, j'ai compris directement qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la question de la sécurité nationale.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, le problème de notre police nationale dure d'environ plus de 40 ans. Et la façon dont il parle, c'est comme si vous pouvez trouver une mégapole de plus de 20 millions d'habitants avec zéro crime. Dans toutes les grandes mégapoles, il y a toujours des problèmes d'insécurité que nous n'encourageons pas d'ailleurs. Mais le problème de notre police, c'est un problème structurel. Lui, l'honorable l'a dit, et moi, nous savons que le VPM de l'intérieur a déposé la loi sur la programmation de la réforme de la police. Comment pouvez-vous résoudre ces problèmes structurels s'il n'y a pas de moyens qui ont été mis à votre disposition? J'ai suivi encore l'honorable Ladi qui traitait de VPM de l'intérieur d'incompétent, mais je crois que c'est nous, le Parlement, qui avons été incompétents parce que nous n'avons pas pu mettre à temps les moyens au VPM de l'intérieur pour qu'ils puissent faire les réformes de la police. Et ces réformes ne se font pas par baguette magique.
Merci, Itiel Batoumike. Vous êtes analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Quelle analyse vous faites de la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité?
Je pense que sur le fond, il y a convergence, qu'il y a insécurité, que la police n'a pas de moyens, comme était en train de le dire l'honorable Paul Chilumbu. Donc je pense effectivement que par rapport à ces problèmes, les responsabilités évidemment peuvent être partagées. D'un côté, l'autorité budgétaire qui est le Parlement et qui n'a pas mis à disposition du gouvernement des moyens nécessaires pour la réforme de la police dans le cadre de la loi de programmation adoptée d'ailleurs par le Parlement. Donc je pense qu'il est important de tirer au clair ses responsabilités et c'est pour ça d'ailleurs que le fait d'avoir initié une motion de défiance contre le ministre ne devrait pas être perçu comme un fait aussi alarmant que ça commence à l'être depuis plus d'une semaine. Je pense que c'est un exercice normal de redevabilité où le ministre devrait normalement être invité à l'Assemblée nationale pour pouvoir présenter ses moyens de défense. Et je pense qu'en toute sportivité, en tout esprit démocratique, cela devrait se passer normalement.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Jude Mister Bilandan Kumar et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wa Nyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.